17. Vous aimez Sténio ? Femme, vous mentez. Songez à ce que nous sommes, vous, lui, moi. Vous aimez Sténio ? Cela n'est pas et ne peut pas être. Songez-vous au siècle qui vous sépare de lui ? Vous, fleur flétrie, battue des vents, brisée. Vous, esquif ballotté sur toutes les mers, échoué sur toutes les grèves, vous oseriez tenter un nouveau voyage ? Ah, vous n'y songez pas, Lilia. Aux êtres comme nous, que faut-il à présent ? Le repos de la tombe. Vous avez vécu. Laissez vivre les autres à leur tour. Ne vous jetez pas, ombre triste et fugitive, dans les voies de ceux qui n'ont pas fini leur tâche et perdu leur espoir. Lélia, Lélia, le cercueil te réclame. N'as-tu pas assez souffert, pauvre destinée ? Couche-toi donc dans ton linceul. Dors donc enfin dans ton silence, âme fatiguée que Dieu ne condamne plus au travail et à la douleur. Il est bien vrai que vous êtes moins avancée que moi. Il vous reste quelques réminiscences des temps passés. Vous luttez encore parfois contre l'ennemi de l'homme, contre l'espoir. Mais croyez-moi, ma sœur, quelques pas seulement vous séparent du but. Croyez-moi, il y a bien peu de chemin à faire pour que nous marchions du même pas vers l'éternelle béatitude. Vous êtes bien plus près de moi que de Sténio. Et puis, pour venir à moi, il faut avancer. Au lieu que pour aller à lui, il faudrait retourner en arrière. Et cela n'est pas possible. Il est facile de vieillir. Nul ne rajeunit. Encore une fois, laissez l'enfant croître et vivre. N'étouffez pas la fleur dans son germe. Ne jetez pas votre haleine glacée sur ces belles journées de soleil et de printemps. N'espérez pas donner la vie, Lélia. La vie n'est plus en vous. Il ne vous en reste que le regret. Bientôt, comme à moi, il ne vous en restera plus que le souvenir. 18. Tu me l'as promis, tu m'aimeras doucement et nous serons heureux. Ne cherche point à devancer le temps, Sténio. Ne t'inquiète pas de sonder les mystères de la vie. Laisse-la te prendre et te porter là où nous allons tous. Tu me crains, c'est toi-même qu'il faut craindre. C'est toi qu'il faut réprimer, car à ton âge, l'imagination gâte les fruits les plus savoureux, appauvrit toutes les jouissances. À ton âge, on ne sait profiter de rien, on veut tout connaître, tout posséder, tout épuiser. Et puis on s'étonne que les biens de l'homme soient si peu de choses, quand il faudrait s'étonner seulement du cœur de l'homme et de ses besoins. Va, crois-moi, marche doucement, savoure une à une toutes les ineffables jouissances d'un mot, d'un regard, d'une pensée, tous les riens immenses d'un amour naissant. N'étions-nous pas heureux hier sous ces aunes, quand, assis l'un près de l'autre, nous sentions nos vêtements se toucher et nos regards se deviner dans l'ombre ? Il faisait une nuit bien noire, et pourtant, je vous voyais, Sténio, je vous voyais beau comme vous êtes, et je m'imaginais que vous étiez le sylphe de ces bois, l'âme de cette brise, l'ange de cette heure mystérieuse et tendre. Avez-vous remarqué, Sténio, qu'il y a des heures où nous sommes forcés d'aimer, des heures où la poésie nous inonde, où notre cœur bat plus vite, où notre âme s'élance hors de nous et brise tous les liens de la volonté pour aller chercher une autre âme où se répandre. Combien de fois, à l'entrée de la nuit, au lever de la lune, aux premières clartés du jour, combien de fois, dans le silence de minuit et dans cet autre silence de midi si accablant, si inquiet, si dévorant, n'ai-je pas senti mon cœur se précipiter vers un but inconnu, vers un bonheur sans forme et sans nom, qui est au ciel, qui est dans l'air, qui est partout, comme un aimant invisible, comme l'amour. Et pourtant, Stenio, ce n'est pas l'amour. Vous le croyez, vous qui ne savez rien et qui espérez tout. Moi qui sais tout, je sais qu'il y a au-delà de l'amour des désirs, des besoins, des espérances qui ne s'éteignent point. Sans cela, que serait l'homme? Il lui a été accordé si peu de jours pour aimer sur la terre. Mais à ces heures-là, ce que nous sentons est si vif, si puissant, que nous le répandons sur tout ce qui nous environne. À ces heures où Dieu nous possède et nous remplit, nous faisons rejaillir sur toutes ses œuvres l'éclat du rayon qui nous enveloppe. N'avez-vous jamais pleuré d'amour pour ces blanches étoiles qui sèment les voiles bleues de la nuit? Ne vous êtes-vous jamais agenouillé devant elles? Ne leur avez-vous pas tendu les bras en les appelant vos sœurs? Et puis, comme l'homme aime à concentrer ses affections, trop faible qu'il est pour les vastes sentiments, ne vous est-il point arrivé de vous passionner pour une d'elles? N'avez-vous pas choisi avec amour entre toutes, tantôt celles qui se levaient rouges et scintillantes sur les noires forêts de l'horizon, tantôt celles qui, pâles et douces, se voilaient comme une vierge pudique derrière les humides reflets de la lune, tantôt ces trois sœurs également blanches, également belles, qui brillent dans un triangle mystérieux, tantôt ces deux compagnes radieuses qui dorment côte à côte dans le ciel pur parmi des myriades de moindres gloires, et tous ces signes cabalistiques, tous ces chiffres inconnus, tous ces caractères étranges, gigantesques, sublimes qu'elles tracent sur nos têtes, ne vous êtes-vous pas laissé prendre à la fantaisie de les expliquer et d'y découvrir les grands mystères de notre destinée, l'âge du monde, le nom du Très-Haut, l'avenir de l'âme? Oui, vous avez interrogé ces astres avec d'ardentes sympathies, et vous avez cru rencontrer des regards d'amour dans le tremblant éclat de leurs rayons. Vous avez cru sentir une voix qui tombait de là-haut pour vous caresser, pour vous dire: espère, tu es venu de nous, tu reviendras vers nous. C'est moi qui suis ta patrie, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te convie, c'est moi qui dois t'appartenir un jour. L'amour, Stenio, n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas cette violente aspiration de toutes les facultés vers un être créé. C'est l'aspiration sainte de la partie la plus éthérée de notre âme vers l'inconnu. Être borné, nous cherchons sans cesse à donner le change à ces cuisants et insatiables désirs qui nous consument. Nous leur cherchons un but autour de nous. Et, pauvres prodigues que nous sommes, nous parons nos périssables idoles de toutes les beautés immatérielles aperçues dans nos rêves. Les émotions des sens ne nous suffisent pas. La nature n'a rien d'assez recherché dans le trésor de ses joies naïves pour apaiser la soif de bonheur qui est en nous. Il nous faut le ciel et nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous cherchons le ciel dans une créature semblable à nous et nous dépensons pour elle toute cette haute énergie qui avait été donnée pour un plus noble usage. nous refusons à Dieu le sentiment de l'adoration, sentiment qui fut mis en nous pour retourner à Dieu seul. Nous le reportons sur un être incomplet et faible qui devient le Dieu de notre culte idolâtre. Dans la jeunesse du monde, alors que l'homme n'avait pas faussé sa nature et méconnu son propre cœur, l'amour d'un sexe pour l'autre, tel que nous le concevons aujourd'hui, n'existait pas. Le plaisir seul était un lien. La passion morale, avec ses obstacles, ses souffrances, son intensité, est un mal que ces générations n'ont ignoré. C'est qu'alors, il y avait des dieux, et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, pour les âmes poétiques, le sentiment de l'adoration entre jusque dans l'amour physique. Étrange erreur d'une génération avide et impuissante. Aussi, quand tombe le voile divin et que la créature se montre chétive et imparfaite, derrière ces nuages d'encens, derrière cette auréole d'amour, nous sommes effrayés de notre illusion. Nous en rougissons. Nous renversons l'idole et nous la foulons nos pieds. Et puis, nous en cherchons une autre. Car il nous faut aimer, et nous nous trompons encore souvent, jusqu'au jour où, désabusés, éclairés, purifiés, nous abandonnons l'espoir d'une affection durable sur la terre et nous élevons vers Dieu l'hommage enthousiaste et pur que nous n'aurions jamais dû adresser qu'à lui. 19. Ne m'écrivez pas, Lélia. Pourquoi m'écrivez-vous? J'étais heureux, et voilà que vous me rejetez dans les anxiétés dont j'étais sorti un instant. Cette heure de silence auprès de vous m'avait révélé tant d'ineffables voluptés. Déjà, Lélia, vous vous repentez de me les avoir fait connaître. Et que craignez-vous donc de mon avis d'impatience? Vous me méconnaissez à dessein. Vous savez bien que je serai heureux de peu parce que rien de ce que vous ferez pour moi ne me paraîtra petit, parce que j'attacherai à vos moindres faveurs le prix qu'elles doivent avoir. Je ne suis pas présomptueux. Je sais combien je suis au-dessous de vous. Cruelle femme, pourquoi me rappeler sans cesse à cette humilité tremblante qui me fait tant souffrir. Je comprends, Lélia, hélas, je comprends. C'est Dieu seul que vous pouvez aimer. C'est seulement au ciel que votre âme peut se reposer et vivre. Quand vous avez, dans l'émotion d'une heure de rêverie, laissé tomber sur moi un regard d'amour, c'est que vous vous trompiez, c'est que vous pensiez à Dieu, que vous preniez un homme pour un ange. Quand la lune s'est levée, quand elle a éclairé mes traits et dissipé cette ombre favorable à vos chimères dorées, vous avez souri de pitié en reconnaissant le front de Sténio. Le front de Sténio où vous aviez imprimé un baiser pourtant. Vous voulez que je l'oublie, je le vois bien. Vous avez peur que j'en garde l'enivrante sensation et que j'en vive tout un jour. Rassurez-vous, je n'ai pas goûté ce bonheur en aveugle. S'il a dévoré mon sang, s'il a brisé ma poitrine, il n'a pas égaré ma raison. La raison ne s'égare jamais auprès de vous, Lélia. Soyez tranquille, vous dis-je. Je ne suis pas un de ces donjons audacieux pour qui un baiser de femme est un gage d'amour. Je ne me crois pas le pouvoir d'animer le marbre et de ressusciter les morts. Et pourtant, votre haleine a embrasé mon cerveau. À peine vos lèvres ont effleuré l'extrémité de mes cheveux et j'ai cru sentir une étincelle électrique, une commotion si terrible qu'un cri de douleur s'est échappé de ma poitrine. Oh, vous n'êtes pas une femme, Lélia, je le vois bien. J'avais rêvé le ciel dans un de vos baisers et vous m'avez fait connaître l'enfer. Pourtant, votre sourire était si doux, vos paroles si suaves et si consolantes que je me laissais ensuite faire heureux par vous. Cette terrible émotion s'émoussa un peu. Je vins à bout de toucher votre main sans frissonner. Vous me montriez le ciel et j'y montais avec vos ailes. J'étais heureux cette nuit en me rappelant votre dernier regard, vos derniers mots. Je ne me flattais pas, Lélia, je vous le jure. Je savais bien que je n'étais pas aimé de vous, mais je m'endormais dans ce molle engourdissement où vous m'aviez jeté. Voici déjà que vous me réveillez pour me crier de votre voix lugubre « Souviens-toi, Sténio, que je ne puis pas t'aimer. Et je le sais, madame, je le sais trop bien. » 20. Lélia, adieu, je vais me tuer. Vous m'avez fait heureux aujourd'hui. Demain, vous m'arracheriez bien vite le bonheur que par mégarde ou par caprice, vous m'avez donné ce soir. Il ne faut pas que je vive jusqu'à demain. Il faut que je m'endorme dans ma joie et que je ne m'éveille pas. Le poison en est préparé. Maintenant, je puis vous parler librement. Vous ne me verrez plus. Vous ne pourrez plus me désespérer. Peut-être regretterez-vous la victime que vous pouviez faire souffrir, le jouet que vous vous amusiez à tourmenter sous votre souffle capricieux. Vous m'aimiez plus que train de mort, disiez-vous, quoique vous m'estimassiez moins. Il est vrai que vous ne pouvez pas torturer train de mort à votre gré. Contre lui, votre puissance échoue. Vos ongles de tigre et de femme n'ont pas de prise sur ce cœur de diamant. Moi, j'étais une cire molle qui recevait toutes les empreintes. Je conçois, artiste, que vous vous plaisiez mieux avec moi. Vous me tourmentiez à votre guise et vous me donniez toutes les formes de vos inspirations. Triste, vous imprimiez à votre œuvre le sentiment dont vous étiez dominé. Calme, vous lui donniez l'air calme des anges. Irrité, vous lui communiquiez l'affreux sourire que le démon a mis sur vos lèvres. Ainsi, le statuaire fait un dieu avec un peu de fange et un reptile avec la même fange qui fut un dieu. Lélia, pardonne à ces instants de haine que tu m'inspires. C'est que je t'aime avec passion, avec délire, avec désespoir. Je puis bien te le dire sans t'offenser, sans te désobéir, puisque c'est la dernière fois que je te parle. Tu m'as fait bien du mal. Et pourtant, il t'était bien facile de faire de moi un homme heureux, un poète aux idées riantes, aux vives sensations. Avec un mot par jour, avec un sourire chaque soir, tu m'aurais fait grand, tu m'aurais conservé jeune. Au lieu de cela, tu n'as cherché qu'à me flétrir et à me décourager. Tout en disant que tu voulais garder en moi le feu sacré, tu l'as éteint jusqu'à la dernière étincelle. Tu le rallumais méchamment afin d'en surprendre l'éruption et d'en étouffer la flamme. Maintenant, je renonce à l'amour, je renonce à la vie. Es-tu contente? Adieu. Minuit approche. Je vais où tu ne viendras pas, Lélia. Car il est impossible que nous ayons le même avenir. Nous n'adorons pas la même puissance. Nous n'habiterons pas les mêmes cieux. 21. Minuit sonna. Trainemort entra chez Sténio. Il le trouva pensif, assis auprès du feu. Le temps était froid et sombre. La bise sifflait d'une voix aiguë sous les lambris vides et sonores. Il y avait sur la table, devant Sténio, une coupe remplie jusqu'au bord que Trainemort renversa en l'effleurant de son manteau. « Il faut que vous veniez avec moi auprès de Lélia, » lui dit-il d'un air grave mais paisible. « Lélia veut vous voir. Je pense que son heure est venue et qu'elle va mourir. Sténio se leva brusquement et retomba sur sa chaise pâle et sans force. Puis il se leva de nouveau, prit convulsivement le bras de Trainemort et courut chez Lélia. Elle était couchée sur un sofa, ses joues avaient un reflet bleu, ses yeux semblaient s'être retirés sous l'arc profond de ses sourcils. Un grand pli traversait son front, ordinairement si poli et si blanc. Mais sa voix était pleine et assurée, et le sourire du dédain errait, comme de coutume, sur ses lèvres mobiles. Il y avait auprès d'elle le joli docteur Krejnefetter, un charmant homme tout jeune, blond, vermeil, au sourire nonchalant, à la main blanche, au parler doucereux et protecteur. Le joli docteur Krejnefetter tenait familièrement une main de Lélia dans les siennes et, de temps en temps, il interrogeait le mouvement de l'artère, puis il passait son autre main dans les belles boucles de sa chevelure, artistement relevée en pointe sur le sommet de son noble crâne. « Ce n'est rien, disait-il avec un aimable sourire, rien du tout. C'est le choléra morbus, la chose la plus commune du monde dans ces temps-ci, et la maladie la mieux connue. Rassurez-vous, mon bel ange, vous avez le choléra, une maladie qui tue en 2 heures ceux qui ont la faiblesse de s'en effrayer, mais qui n'est point dangereuse pour les esprits fermes comme les nôtres. Ne vous effrayez donc pas, aimable étrangère. Nous sommes ici 2 qui ne craignons pas le choléra. Vous et moi défions le choléra, faisons peur à ce vilain spectre, à ce hideux monstre qui fait dresser les cheveux au genre humain. Raillons le choléra, c'est la seule manière de le traiter. Mais, dit Trainemort, si l'on essayait le punch du docteur Magendy ? Pourquoi pas le punch du docteur Magendy ? Dit le joli docteur Krejnefetter, si le malade n'a point de répugnance pour le punch. J'ai ouï dire, reprit Lélia avec un sang-froid caustique, qu'il était fort contraire. Essayons plutôt les adoucissants. Essayons les adoucissants, si vous croyez à la vertu des adoucissants, dit le joli docteur Krejnefetter. Mais que conseillez-vous selon votre conscience, dit Stenio. À ce mot de conscience, le docteur Krejnefetter jeta un regard de compassion moqueuse au jeune poète. Puis il se remit parfaitement et dit d'un air grave « Ma conscience m'ordonne de ne rien ordonner du tout et de ne me mêler en rien de cette maladie. »« C'est fort bien, docteur, » dit Lélia. « Alors, comme il se fait tard, bonsoir. N'interrompez pas plus longtemps votre précieux sommeil. » « Oh, ne faites pas attention, » reprit-il, « je suis bien ici. Je me plais à suivre les progrès du mal. J'étudie. J'aime mon métier de passion et je sacrifie volontiers mes plaisirs et mon repos. Je sacrifierais ma vie s'il le fallait pour le bien de l'humanité. » « Quel est donc votre métier, docteur Krejnefetter ?» demanda Trainemort. « Je console. » « Et j'encourage, » répondit le docteur, « c'est ma vocation. L'étude m'a révélé toute l'importance des maladies dont l'homme est assiégé. Je la constate, je l'observe, j'assiste au dénouement et je profite de mes observations. Pour ordonnancer les précautions du système hygiénique applicable à votre aimable personne, » dit Lélia. « Je crois peu à l'influence d'un système quelconque, » dit le docteur. « Nous naissons tous avec le principe d'une mort plus ou moins prochaine. Nos efforts pour retarder le terme ne font souvent que le hâter. Le mieux est de n'y pas penser et de l'attendre en oubliant qu'il doit venir. » « Vous êtes très philosophe, » dit Lélia en prenant du tabac dans la boîte d'or du docteur. Mais elle eut une convulsion et tomba mourante dans les bras de Sténio. Allons, ma belle enfant, dit le docteur Imbert, mais un peu de courage. Si vous vous affectez de votre état le moins du monde, vous êtes perdue. Mais vous ne courez pas plus de risques que moi si vous gardez le même sang-froid. » Lélia se releva sur un coude et, le regardant avec ses yeux éteints par la souffrance, elle trouva encore la force de sourire avec ironie. « Pauvre docteur, lui dit-elle, je voudrais te voir à ma place. »« Merci, pensa le docteur. Vous disiez donc que vous ne croyez pas à l'influence des remèdes. Vous ne croyez donc pas à la médecine, dit-elle. Pardon, l'étude de l'anatomie et la connaissance du corps humain avec ses altérations et ses infirmités, c'est là une science positive. » « Oui, dit Lélia, que vous cultivez comme un art d'agrément. Mes amis, dit-elle en tournant le dos au docteur, allez me chercher un prêtre. Je vois que le médecin m'abandonne. » Trenmore courut chercher le prêtre. Stenio voulut jeter le médecin par-dessus le balcon. « Laissez-le tranquille, lui dit Lélia. Il m'amuse. Il donne-lui un livre. » Et mène-le dans mon cabinet devant une glace afin qu'il s'occupe. Quand je sentirai le courage m'abandonner, je le ferai appeler afin qu'il me donne des conseils de stoïcisme et que je meure en riant de l'homme et de sa science. » Le prêtre arriva. C'était le grand et beau prêtre irlandais de la chapelle de Sainte-Laure. Il s'approcha, austère et lent. Son aspect inspirait un respect religieux. Son regard calme et profond, qui semblait réfléchir le ciel, eût suffi pour donner la foi. Lélia, brisée par la souffrance, avait caché son visage sous son bras contracté, enlacé de ses cheveux noirs. « Ma sœur, dit le prêtre d'une voix pleine et fervente, Lélia laissa retomber son bras et retourna lentement son visage vers l'homme de Dieu. « Encore cette femme ? » s'écria-t-il en reculant avec terreur. Alors sa physionomie fut bouleversée, ses yeux restèrent fixes et pleins d'épouvante. Son teint devint livide et Stenio se souvint du jour où il l'avait vu pâlir et trembler en rencontrant le regard sceptique de Lélia au-dessus de la foule prosternée. « C'est toi, Magnus, lui dit-elle, me reconnais-tu ? Si je te reconnais, femme, s'écria le prêtre avec égarement, si je te connais, mensonge, désespoir, perdition !» Lélia ne lui répondit que par un éclat de rire. « Voyons, dit-elle en l'attirant vers elle de sa main froide et bleuâtre, « approche, prêtre, et parle-moi de Dieu. Tu sais pourquoi l'on t'a fait venir ici. C'est une âme qui va quitter la terre et qu'il faut envoyer au ciel. N'en as-tu pas la puissance ?» Le prêtre garda le silence et resta terrifié. « Allons, Magnus, dit-elle avec une triste ironie, et tournant vers lui son visage pâle, déjà couvert des ombres de la mort, « remplis la mission que l'Église t'a confiée. Sauve-moi, ne perds pas de temps, je vais mourir. » « Lélia, répondit le prêtre, je ne peux pas vous sauver, vous le savez bien. Votre puissance est supérieure à la mienne. »« Qu'est-ce que cela signifie ? » dit Lélia, se dressant sur sa couche. « Suis-je déjà dans le pays des rêves ? Ne suis-je plus de l'espèce humaine qui rampe ? Qui prie et qui meurt. Le spectre effaré que voilà, n'est-il pas un homme, un prêtre ? Votre raison est-elle troublée, Magnus ? Vous êtes là, vivant et debout, et moi, j'expire. Pourtant, vos idées se troublent et votre âme faiblit, tandis que la mienne appelle avec calme la force de s'exhaler. Allons, homme de peu de foi, invoquez Dieu pour votre sœur mourante et laissez aux enfants ces peurs superstitieuses qui devraient vous faire pitié. En vérité, Qui êtes-vous tous ? Voici Trainemort étonné. Voici Sténio, le jeune poète, qui regarde mes pieds et qui croit y apercevoir des griffes. Et voilà un prêtre qui refuse de m'absoudre et de m'ensevelir. Suis-je déjà morte ? Est-ce un songe que je fais ? Non, Lélia, dit enfin le prêtre d'une voix triste et solennelle, je ne vous prends pas pour un démon, je ne crois pas aux démons, vous le savez bien. Ah, dit-elle en se tournant vers Sténio, entendez le prêtre, il n'y a rien de moins poétique que la perfection humaine. Soit, mon père, renions Satan, condamnons-le au néant. Je ne tiens pas à son alliance, quoique l'air satanique soit assez de mode, et qu'il ait inspiré à Sténio de fort beaux vers en mon honneur. Si le diable n'existe pas, me voici fort en paix sur mon avenir. Je puis quitter la vie à cette heure, je ne tomberai pas dans l'enfer. Mais où irai-je, dites-moi? Où vous plaît-il de m'envoyer, mon père? Au ciel, dites. Au ciel, s'écria Magnus. Vous, au ciel, est-ce votre bouche qui a prononcé ce mot? N'est-il point de ciel non plus? Dit Lélia. Femme, dit le prêtre, il n'en est point pour toi. Voilà un prêtre consolant, dit-elle. Puisqu'il ne peut sauver mon âme, qu'en amène le médecin, et que, pour or ou pour argent, il se décide à sauver ma vie. Je ne vois rien à faire, dit le docteur Krechneffetter. La maladie suit une marche régulière et bien connue. Avez-vous soif? Que l'on vous apporte de l'eau. Et puis, calmez-vous, attendons. Les remèdes vous tueraient à l'heure qu'il est. Laissons agir la nature. Bonne nature, dit Lélia, je voudrais bien t'invoquer. Mais qui es-tu? Où est ta miséricorde? Où est ton amour? Où est ta pitié? Je sais bien que je viens de toi et que j'y dois retourner, mais à quel titre t'adjurerais-je de me laisser ici encore un jour? Il y a peut-être un coin de terre aride auquel manque ma poussière pour y faire croître de l'herbe. Il faut donc que j'aille accomplir ma destinée. Mais vous, prêtre, appelez sur moi le regard de celui qui est au-dessus de la nature et qui peut lui commander. Celui-là peut dire à l'air pur de raviver mon souffle, au suc des plantes de me ranimer, au soleil qui va paraître de réchauffer mon sang. Voyons, enseignez-moi à prier Dieu. Dieu, dit le prêtre, en laissant tomber avec accablement sa tête sur son sein. Dieu! Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues flétries. « Oh Dieu » dit-il, « oh doux rêve qui m'a fui, où es-tu, où te retrouverai-je? Espoir, pourquoi m'abandonnes-tu sans retour? Laissez-moi, madame, laissez-moi sortir d'ici. Ici, tous mes doutes reprennent leur funeste empire. Ici, en présence de la mort, s'évanouit ma dernière espérance, ma dernière illusion. » Vous voulez que je vous donne le ciel, que je vous fasse trouver Dieu, et vous allez savoir s'il existe. Vous êtes plus heureuse que moi qui l'ignore. Allez-vous-en, dit Lélia, homme superbe, quittez mon chevet. Et vous, Trainemort, voyez ceci, voyez ce médecin qui ne croit pas à sa science, voyez ce prêtre qui ne croit pas à Dieu, et pourtant, ce médecin est un savant, ce prêtre est un théologien. Celui-ci, dit-on, soulage les moribonds, celui-là console les vivants. Et tous deux ont manqué de foi auprès d'une femme qui se meurt. Madame, dit Krechneffetter, si j'avais essayé de faire le médecin avec vous, vous m'auriez raillé. Je vous connais, vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes philosophe. « Madame, dit Magnus, ne vous souvient-il plus de notre promenade dans la forêt du Grimsel? Si j'avais osé faire le prêtre avec vous, n'auriez-vous pas achevé de me rendre incrédule? Voilà donc, leur dit Lélia d'un ton amer, à quoi tient votre force? La faiblesse d'autrui fait votre puissance. Mais dès qu'on vous résiste, vous reculez et vous avouez en riant que vous jouez un faux rôle parmi les hommes, charlatans et imposteurs que vous êtes. Hélas, Tranmore, où en sommes-nous? Où en est le siècle? Le savant nie, le prêtre doute. Voyons si le poète existe encore. Sténio, prends ta harpe et chante-moi les vers de Faust. Ou bien ouvre tes livres et redis-moi les souffrances d'Obermann, les transports de Saint-Preux. Voyons, poète, si tu comprends encore la douleur. Voyons, jeune homme, si tu crois encore à l'amour. Hélas, Lélia, s'écria Sténio en tordant ses blanches mains, vous êtes femme et vous n'y croyez pas. Où en sommes-nous? Où en est le siècle? 22. Dieu du ciel et de la terre, Dieu de force et d'amour, entends une voix pure qui s'exhale d'une âme pure et d'un sein vierge. Entends la prière d'un enfant, rends-nous Lélia. Pourquoi, mon Dieu, veux-tu nous arracher si tôt la bien-aimée de nos cœurs? Écoute la grande et puissante voix de Tranmore, de l'homme qui a souffert, de l'homme qui a vécu. Entends le vœu d'une âme encore ignorante des maux de la vie. Tous deux te demandent de leur conserver leur bien, leur poésie, leur espoir, Lélia. Si tu peux déjà la placer dans ta gloire et l'envelopper de tes éternelles félicités, reprends-la, mon Dieu, elle t'appartient. Ce que tu lui destines vaut mieux que ce que tu lui ôtes. Mais en sauvant Lélia, ne nous brise pas. Ne nous perds pas, ô mon Dieu. Permets-nous de la suivre et de nous agenouiller sur les marches du trône où elle doit s'asseoir. C'est fort beau, dit Lélia en l'interrompant, mais ce sont des vers et rien de plus. Laissez cette harpe dormir en paix, ou mettez-la sur la fenêtre. Le vent n'en jouera mieux que vous. Maintenant, approchez. Va-t'en, Tranmore, ton calme m'attriste et me décourage. Viens, Sténio, parle-moi de toi et de moi. Dieu est trop loin, je crains qu'il ne nous entende pas. Mais Dieu a mis un peu de lui en toi. Montre-moi ce que ton âme en possède. Il me semble qu'une aspiration bien ardente de cette âme vers la mienne, il me semble qu'une prière bien fervente que tu m'adresserais me donnerait la force de vivre. La force de vivre, oui, il ne s'agit que de le vouloir. Mon mal consiste, Sténio, à ne pouvoir pas trouver en moi cette volonté. Tu souris, Tranmore, va-t'en. Hélas, Sténio, ceci est vrai. J'essaie de résister à la mort, mais j'essaie faiblement. Je la crains moins que je ne la désire. Je voudrais mourir par curiosité. Hélas, j'ai besoin du ciel, mais je doute. Et s'il n'y a point de ciel au-dessus de ces étoiles, je voudrais le contempler encore de la terre. Peut-être, mon Dieu, est-ce ici-bas seulement qu'il faut l'espérer? Peut-être est-il dans le cœur de l'homme? Dis, toi qui es jeune et plein de vie, l'amour, est-ce le ciel? Vois comme ma tête s'affaiblit et pardonne cet instant de délire. Je voudrais bien croire à quelque chose, ne fût-ce qu'à toi, ne fût-ce qu'une heure avant d'en finir, sans retour peut-être avec les hommes et avec Dieu. Doute de Dieu, doute des hommes, doute de moi-même si tu veux, dit Sténio en s'agenouillant devant elle, mais ne doute pas de l'amour, ne doute pas de ton cœur, Lélia. Si tu dois mourir à présent, s'il faut que je te perde, ô mon tourment, ô mon bien, ô mon espoir, fais au moins que je croie en toi une heure, un instant. Hélas, mourras-tu sans que je t'aie vu vivre? Mourrai-je avec toi sans avoir embrassé en toi autre chose qu'un rêve? Mon Dieu, n'y a-t-il d'amour que dans le cœur qui désire, que dans l'imagination qui souffre, que dans les songes qui nous bercent durant les nuits solitaires? Est-ce un souffle insaisissable? Est-ce un météore qui brille et qui meurt? Est-ce un mot? Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Ô ciel, ô femme, ne me l'apprendrez-vous pas? Cet enfant demande à la mort le secret de la vie, dit Lélia. Il s'agenouille sur un cercueil pour obtenir l'amour. Pauvre enfant, mon Dieu, ayez pitié de lui. Et rendez-moi la vie afin de conserver la sienne. Si vous me la rendez, je fais vœu de vivre pour lui. Il dit que je vous ai blasphémé en blasphémant l'amour. Eh bien, je courberai mon front superbe, je croirai, j'aimerai. Faites seulement que je vive de la vie du corps et j'essaierai de vivre de celle de l'âme. « Entendez-vous, mon Dieu, s'écria Sténio avec délire, entendez-vous ce qu'elle dit, ce qu'elle promet? Sauvez-la, sauvez-moi, donnez-moi Lélia, rendez-lui la vie. » Lélia tomba raide et froide sur le parquet. C'était une dernière, une horrible crise. Sténio la pressa contre son cœur en criant de désespoir. Son cœur était brûlant. Ses larmes chaudes tombèrent sur le front de Lélia. Ses baisers vivifiants ramenèrent le sang à ses lèvres. Sa prière peut-être attendrit le ciel. Lélia ouvrit faiblement les yeux et dit à Trainemort qui l'aidait à se relever, « Sténio a relevé mon âme. » Si vous voulez la briser encore avec votre raison, tuez-moi tout de suite. Et pourquoi vous ôterai-je le seul jour qui vous reste, dit Trainemort. La dernière plume de votre aile n'est pas encore tombée.